Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocats, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocats.com.
Votre point de repère.
C'est le fun d'avoir des chroniqueurs réguliers et c'est surtout le fun quand on peut à juxtaposer leur sujet, leur chronique avec l'actualité. C'est le cas aujourd'hui de Philippe Coderre, avocat chez Coderre Avocats. Bon mercredi, Philippe.
Salut, Mathieu.
Quand je dis juxtaposer les sujets, là, c'est que le sujet d'aujourd'hui, c'est l'insubordination. Avant de rentrer là-dedans, là, on a appris ce matin que, bon, Maxime Pedneau-Jobin aurait tenté de congédier la DG de la ville, Marie-Hélène Lajoie. De façon générale, dans les villes au Québec, que ce soit un DG ou dans les plus petites municipalités, on parle d'un secrétaire trésorier, comment est-ce qu'ils sont protégés des conseils municipaux?
Ils sont très bien protégés.
Ah oui?
Les recours qui sont prévus, c'est le recours à la loi sur les cités et villes et en vertu du code municipal. Et ces recours-là empêchent essentiellement toute destitution qui serait injuste et non justifiée de tout fonctionnaire qui n'est pas syndiqué. Donc, ça va large. C'est pas
surtout
simplement la directrice.
Une année comme cette année, une année électorale, tu sais, peut-être qu'un conseiller décide de se présenter à la mairie, puis là, je parle pas de Gatineau, là, puis il réussit à passer, lui ou elle, va y avoir sa tête dès que je suis élu, etc. Donc, ça protège contre ça.
Ben oui, l'important, c'est ça l'objectif, parce que, bon, il y a des nouveaux conseils d'administration à chaque 4 ans, donc il n'y aurait pas de stabilité dans les appareils municipaux s'il n'y avait pas cette protection-là. C'est vraiment ça l'objectif. Évidemment, il y a des trucs là, pour, comme on dit, bypasser ça. On peut donner des contrats à durée déterminée, par exemple, à des directeurs généraux ou à des fonctionnaires. Bon, puis dans 4 ans, ça finit et au pire, on renouvelle. Ça, c'est correct. Mais autrement, supposons que la personne a un contrat à durée indéterminée et qu'on veut mettre fin à son emploi. Il faut se lever de bonne heure parce qu'on doit avoir un dossier assez solide. Je ne sais pas si tu te souviens du dossier de Richard Parent à Cantley.
Oui,
écoute. Bon, c'est un dossier qui a fait les manchettes. Et puis, c'est un dossier, des dossiers très coûteux parce que la personne qui dépose la plainte peut aussi obtenir le remboursement de ses honoraires d'avocat. Donc, c'est écrit clairement dans la loi. Là. Donc, à ce moment-là, ça fait des dossiers qui peuvent coûter le double pour les municipalités et les villes du Québec. Donc, oui, les recours sont très importants.
Souvent, ça finit en entente hors cours et des compensations dans les 6 chiffres, on s'entend là-dessus. Là.
Ben, c'est parce que normalement, comment qu'on calcule ça, c'est que le salaire de la personne va être dans les 6 chiffres bien souvent. Donc oui, ça peut être des règlements assez payants, à moins que la ville ou la municipalité ait un super bon dossier, ce qui arrive aussi là des fois. Mais si c'est des commandes politiques, généralement, faut régler ça hors cours du côté de la municipalité ou de la ville parce que le fonctionnaire est en bonne posture.
Bon, ben ça, c'est un bon dossier de closer. Maintenant, on va parler d'insubordination. Comment ce concept est défini quand on parle du droit du travail?
En matière de droit du travail, c'est simplement de refuser d'obtempérer à un ordre, un règlement, une politique de l'employeur qui est communiqué par une personne en autorité, là, évidemment. Là, c'est un collègue qui vous donne des ordres, vous n'êtes pas obligé de les respecter. Mm-hmm. Et l'autre facteur qui est important, c'est d'avoir une intention de défier l'autorité. Si je respecte pas une règle sans le savoir, ça peut être de l'incompétence, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est pas nécessairement de l'insubordination. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est ça les paramètres qu'on va évaluer.
Tu as parlé d'ordre ou de directive. Tu sais, parfois, la ligne est mince entre l'abus de pouvoir ou la directive de travail. Comment est-ce qu'on doit tout respecter les directives? Dans le fond, est-ce qu'on doit le faire, premièrement?
Je te dirais que la règle de base, c'est obéissez d'abord, puis contestez ensuite. Donc, si votre patron vous dit qu'il vous donne quelque chose à faire, mm-hmm. normalement, on recommande aux salariés d'obtempérer, puis après ça, de contester. Les limites, là, les critères, normalement, c'est que la directive doit être claire et non équivoque. Donc, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté dans la directive. L'ordre doit être raisonnable et pas abusif. Ça doit être uniforme. Je peux pas donner des ordres à certains puis des ordres différents à l'autre. Ça, on le voit beaucoup dans des situations d'harcèlement psychologique, évidemment. Mm-hmm. Ça doit pas être discriminatoire non plus. Donc, si jamais je reçois un ordre qui rentre dans ces paramètres-là, je peux refuser d'obtempérer si je suis 100% convaincu de mon coup. Mais il y a toujours un risque parce que c'est le juge qui va évaluer ultimement si les critères là, que je viens d'énumérer étaient valides ou pas pour l'employeur. Donc, normalement, si on est capable d'obtempérer, on le fait, puis on conteste ensuite. Ou sinon, il faut être sûr de notre coup parce que c'est de l'insubordination autrement.
Ouais. Je te pose une question au niveau de la sécurité. Tu sais, un patron va là, fait ça, et tu sens que ta sécurité n'est pas complètement protégée. Et tu sais, des fois, c'est une question de temps. Là, tu sais, vas-y dans une heure. Tu n'as pas le temps de te tourner de bord. À ce moment-là, on est dans une zone grise. Comment est-ce qu'on réagit?
Dans ce temps-là, on peut faire, on peut appeler la Commission des normes du travail, en fait, la CSST, CNESST, parce qu'il y a un droit de refus qui est prévu dans la loi lorsqu'on sent là, que les conditions de travail nous placent en danger. Mm-hmm. Il y a d'autres dispositions comme ça, là, par exemple, au niveau des heures supplémentaires. La loi sur les normes prévoit, par exemple, que vous avez le droit de refuser de faire plus que 10 heures, donc plus de 50 heures par semaine. Si votre employeur essaie de vous forcer à faire 65 heures une semaine et que vous refusez, ce n'est pas de l'insubordination parce que vous exercez un droit qui est prévu dans une loi d'ordre public. L'insubordination, c'est toutes les autres situations. Donc, quand il n'y a pas de flou, on peut utiliser okay. la loi. Quand il y a un flou, généralement, on dit aux gens « obéissez » puis après ça, « contestez ».
Je comprends. Puis si le patron modifie des conditions de travail qui demandent à un employé de travailler dans un nouveau lieu, par exemple, ou de modifier ses heures habituelles, là, tu sais, c'est un peu le ping-pong d'horaire, il faut accepter même si ça ne nous arrange pas toujours.
Bien, il y a des limites à ça. Donc, effectivement, là, on essaie d'accommoder l'employeur parce qu'il a le droit de nous donner des directives, sauf qu'il faut savoir que les horaires de travail, le lieu de travail, souvent perçu comme une condition de travail. Donc, mm-hmm. si l'employeur modifie unilatéralement vos conditions de travail de façon permanente, bien, ça peut devenir un congédiement déguisé. Alors, il faut faire attention à ça du côté des employeurs. Puis du côté du salarié, bien, on essaie d'obtempérer, mais si ce n'est pas possible, c'est pas parce que je refuse que j'ai une intention nécessairement de défier l'employeur. C'est que parfois, les règles du jeu auxquelles on s'entendait, ce ne sont plus les mêmes. Puis ben moi, j'ai une famille, puis par exemple, je finissais à telle heure, j'allais chercher mon enfant à la garderie. Donc, on a des arguments valables, là, puis un arbitre pourrait dire, ben, c'est pas un congédiement justifié si jamais l'employeur sévissait là, pour sévir contre la personne qui a fait l'insubordination ici. Ça prend une intention coupable.
Oui, puis si le patron me force à faire des heures supplémentaires, on voit ça notamment dans le domaine infirmier, tu sais, fait un double, etc. Mais là, on est peut-être dans une autre zone. Il n'y a pas de droit de refus dans la loi. Est-ce qu'on doit obéir, contester ensuite pour les sujets dans ce cas-là aussi?
Mais par rapport aux infirmières, c'est intéressant parce que l'une des exceptions prévues à la loi sur les normes du travail qui permet à quelqu'un de refuser de faire des heures supplémentaires, c'est lorsque notre code de déontologie nous empêche de refuser, par exemple. Okay. Et dans le code de déontologie des infirmières, c'est clairement écrit qu'on ne peut pas laisser des patients en difficulté, on ne peut pas partir d'un corps de travail là, si ça mettrait justement la santé de quelqu'un d'autre à rude épreuve. Donc, c'est pour ça qu'elles sont souvent obligées. Cela étant, il est possible de contester par grief le fait qu'on nous demande de faire des heures supplémentaires obligatoires. Mais normalement, encore une fois, je reviens, c'est plate, c'est la cassette du politicien. Cet
après-midi, mais je comprends.
Faut obéir d'abord si on veut pas être trop dans le trouble parce que l'employeur a le droit de donner des directives jusqu'à preuve du contraire.
Dans le fond, si on avait eu un titre à la chronique, là, on aurait pu dire « insubordination, deux points, obéir d'abord ». Si les gens ont quelque chose à retenir, en gros, c'est ça, là.
Exactement.
Maintenant, bon, des sanctions, parce que ça peut arriver, ça, de part et d'autre. Là, on s'attend à quoi quand on est dans une zone d'insubordination?
C'est des sanctions qui peuvent être assez sévères. Donc, c'est des sanctions qui nous permettent des fois de court-circuiter la gradation des sanctions puis d'aller un peu plus sévère. Parce que d'abord, c'est très, très insultant. C'est l'équivalent de recevoir un doigt d'honneur d'un autre conducteur sur la route ou bien de recevoir une balle rapide à 90 000 à l'heure dans la hanche là, parce qu'on a trop célébré un circuit. Là. C'est vraiment insultant. Alors, oui, c'est des sanctions qui peuvent aller jusqu'au congédiement, selon naturellement la nature de l'insubordination. Il faut tout le temps regarder le contexte. Là. Mais je dirais que les employés qui défient vraiment volontairement l'employeur, c'est des employés qui s'exposent à de longues suspensions, même s'ils ont un bon dossier disciplinaire au préalable. Les juges jugent très sévèrement l'insubordination en droit québécois.
OK, il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, c'est ce que tu me dis. Là.
Ah, tout à fait, tout à fait. C'est une des causes les plus connues là, de contestation devant les tribunaux, parce que souvent l'insubordination fera partie d'un dossier. Des fois, c'est de l'insubordination qui n'en est pas. Donc, l'employeur plaide ça, mais c'est pas vraiment de l'insubordination. Mais je dirais que la dimension insubordination fait partie de beaucoup de dossiers en droit du travail au Québec.
Tu l'as peut-être nommé tantôt, mais est-ce qu'on est devant un tribunal du travail à ce moment-là?
Ça dépend si on est syndiqué ou pas. Si on n'est pas syndiqué, c'est le tribunal administratif du travail, donc en vertu de la loi sur les normes du travail qui nous permet de contester notre congédiement, par exemple. Et si on est syndiqué, ça va être un arbitre de grief qui va entendre la question. Donc, dans les deux cas, les paramètres sont assez similaires, à la différence près que l'arbitre de grief, lui, peut même juger le mérite d'une suspension. Alors que le juge administratif du travail va être saisi du dossier seulement dans les cas de congédiement. Donc, il y a plus de protection quand on est syndiqué, évidemment.
Ah, ben ça, c'est indéniable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, ben ça fait pas mal le tour, Philippe?
Oui, tout à fait, tout à fait. On se reparle la semaine prochaine.
Excellent. Passe une bonne semaine, Philippe Coderre, avocat chez Coderre Avocat.